Aujourd'hui, nous recevons Dominique Duranton d'Amnesty International Creuse. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ma foi, ça va avec le soleil.
Avec le soleil, c'est fantastique.
Oui.
Alors, nous approchons de la journée du 10 décembre.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé le 10 décembre et c'était en quelle année déjà ?
C'était en 1948, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée par la plupart des pays du monde.
Et à l'occasion de cet anniversaire mémorable, Amnesty International organise depuis quelques années un événement qui s'appelle...
10 jours pour signer. Alors c'est un événement qui est maintenant international. Et donc Amnesty appelle le public à signer pour 10 personnes dont les violations des droits sont emblématiques. Hein, par exemple, la torture, la liberté d'expression... aussi des communautés dont on ne respecte pas les droits, dont les grandes entreprises ne respectent pas les droits, des discriminations, comme cette année, c'est une petite fille albinos qui risque au Malawi d'être tuée pour des trafics d'organes. Et donc, tous les droits humains sont pris en compte et on essaie de prendre 10 cas, enfin on n'aime pas trop le... terme de cas de 10 personnes donc dont les droits sont violés. Et le but, c'est qu'il y ait des millions de personnes qui agissent et donc qui fassent pression sur les États pour libérer ces personnes ou pour que les discriminations s'arrêtent. Cette année, eh bien, le 10 jours pour signer va correspondre à Aubusson avec un autre événement très important du groupe Creuse.
Qui s'appelle
Amnesty International et la solidarité laïque s'engagent pour défendre les droits de l'enfant. Voilà, avec 14 artistes creusois qui ont accepté de faire des œuvres spécifiquement pour cette exposition.
Du coup, ça s'est ouvert. Aujourd'hui, Amnesty International se saisit aussi de la question des droits de l'enfant, ce qui est certainement différent que la question du droit d'expression. Est-ce que c'est nouveau pour l'association ou est-ce que ça date aussi ?
Alors non, c'est pas nouveau. Disons que Amnesty International collabore à beaucoup de traités, beaucoup de textes internationaux. Et dans les années 80, avec l'UNICEF et beaucoup d'autres organisations, Amnesty International a collaboré à la Convention internationale des droits de l'enfant. Parce qu'on s'est aperçu que les enfants sont des êtres qui sont plus fragiles, moins bien défendus que les autres, et qu'il fallait absolument un texte spécifique aux enfants. Et donc c'est à cette époque-là, en 1989, que la Convention internationale des droits de l'enfant a été promulguée et signée par tous les pays du monde, sauf deux.
Lesquels ?
Les États-Unis et la Somalie.
Mais pour autant, les pays signataires ne le respectent pas forcément.
Non, malheureusement. Et je pense que c'est ce qui nous a donné, par contre, là, de façon tout à fait actuelle, l'idée au groupe Creuse de faire cette exposition, de demander aux artistes de nous faire des œuvres pour illustrer les principaux droits de l'enfant, parce que je pense qu'à notre époque, les enfants sont très, très vulnérables et beaucoup victimes de violations des droits.
Comment vous avez fait appel aux artistes en question et où est l'exposition déjà ?
Alors, les artistes en question avaient déjà travaillé pour nous l'année dernière, pour la liberté d'expression. Et en fait, c'est parce qu'il y a une dame, Marie-France Védrine, qui a rejoint le groupe il y a 2 ans et qui est artiste. Donc, elle a un petit réseau. Et puis, bon, moi, j'avais aussi un petit réseau d'artistes. Et donc, on s'est dit, il faut quelque chose d'un peu spécifique. Et comme l'année dernière, c'était la liberté d'expression, il n'y avait rien de mieux que des artistes pour illustrer la liberté d'expression.
Alors, l'exposition, est-ce qu'il va y avoir un vernissage ?
Oui, bien sûr. Alors, le vernissage a lieu vendredi. 2 décembre à 18h et à partir du 3, donc elle sera visible à la mairie à la salle de la Bourse derrière la mairie d'Aubusson de 14h à 18h tous les jours jusqu'au 11 décembre.
Depuis quand êtes-vous bénévole pour Amnesty International ?
Alors là, c'est une bonne question. Ça remonte à très très longtemps, j'irai 30 ou 40 ans. Voilà. En Creuse, non, parce qu'en Creuse, je suis arrivée il y a 11 ans et j'ai rejoint tout de suite le groupe Creuse. Et donc, en Creuse, ça fait 11 ans que je suis au groupe Creuse.
Et qu'est-ce qui a motivé cet engagement ?
Je pense que c'est la solidarité, c'est le fait de voir que beaucoup de personnes dans le monde ne, voyaient leurs droits élémentaires les violer et il fallait faire quelque chose. Donc j'ai eu envie de faire quelque chose dans la mesure du possible pour tous ces gens qui, dans le monde entier, sont souvent oubliés. Et donc c'est le fait de pointer le doigt sur leur situation qui souvent fait que cette situation s'améliore.
En faisant peut-être donc des pressions en quelque sorte sur les États par le biais des pétitions par exemple.
Voilà, oui, en faisant des pétitions, en écrivant aussi, puisque la base même du militant d'Amnesty, c'est de faire ces trois courriers par mois. Donc tous les mois, il y a trois courriers qu'on nous demande de faire dans le monde entier. Enfin, tous les continents sont concernés.
Mais c'est des courriers du coup qui se présentent comment ? Ils sont à l'initiative de l'individu ?
Alors, c'est généralement le secrétariat international d'Amnesty qui diffuse ces courriers. Et donc, on les envoie au ministre, on les envoie au premier ministre, au chef de l'État, en disant, ben voilà, un tel, monsieur un tel est en prison, il y est illégalement, il n'a rien fait. Bon, c'est simplement un prisonnier d'opinion. Donc, on vous demande de le libérer, on vous demande que cessent les tortures, ou on vous demande qu'il ait droit à un procès équitable. Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez quand même d'un événement marquant qui vous aurait fait aller dans la voie de l'engagement auprès d'Amnesty ?
Non, pas vraiment.
Mais pourquoi avoir choisi ? Vous auriez pu vous engager, somme toute, dans peut-être d'autres associations. Pourquoi avoir choisi celle-là ?
Parce que je pense que Amnesty International, c'est quand même une organisation qui est déjà internationale, qui est fondée sur la solidarité internationale, qui a des garanties d'indépendance et d'impartialité. Et c'est vraiment toute personne dont les droits sont violés à partir du moment où elle n'a pas utilisé la violence qui est défendue. Et je pense aussi que le départ, c'était parce qu'au début, Amnesty International agissait uniquement pour les prisonniers d'opinion. Et le slogan à l'époque, c'était « écrire contre l'oubli ». Mmh. C'est-à-dire qu'on avait détecté dans le monde des gens qui étaient oubliés, qui pourrissaient en prison et pour lesquels personne n'agissait. Mmh. Et c'est ce fait aussi de mettre en lumière, de pointer le doigt sur des gens qui sinon seraient morts en prison, qui n'intéressaient plus personne.
De rappeler leur existence et ce qu'ils avaient pu faire.
Oui.
Comment fonctionne Amnesty pour découvrir des cas de violation des droits de l'homme et pour les dénoncer tout en restant, tout en ayant les moyens de le faire et en étant indépendant ?
Alors, l'indépendance, ça c'est facile, c'est qu'on ne touche aucun argent, ni des États, ni de groupes armés, ni d'entreprises. On ne vit que des dons des particuliers, des donateurs. Il y a à peu près 200 000 donateurs dans le monde et bien sûr les adhésions des militants d'Amnesty. Alors ensuite, pour avoir les cas, on a une centaine de chercheurs dans le monde entier donc, qui vont sur les lieux, souvent à l'appel, pourquoi pas, des personnes, des personnes, des familles, des avocats. Qui font, parce qu'il faut quand même le dire, la réputation d'Amnesty International est importante. Et donc, ces chercheurs sont appelés sur le terrain, ils font leurs enquêtes, et ils ne sortent l'enquête que, et pour alerter le public et Amnesty, que lorsqu'il y a recoupement de plusieurs témoignages. Au moins trois témoignages doivent se recouper pour que l'information soit jugée véridique. Et donc ensuite, y a un rapport, il y a alerte, et on met la machine en marche, si je puis dire. Voilà.
Et ces rapports, du coup, sont envoyés aux médias ou aux États ou...
Oui.
Quel est le trajet de ces rapports-là ?
Déjà, ça va au siège à Londres d'Amnesty. Et puis, ils sont répartis un peu dans toutes les sections. Il y a à peu près 70 sections dans le monde. Et aux médias, bien sûr. C'est assez souvent quand même que sur les radios,
On entend parler des rapports
selon
d'Amnesty.
Selon le rapport d'Amnesty, il se passe ceci en Syrie, il y a ceci au Soudan, etc.
Voilà. Ça met combien de temps, en gros, à être monté un rapport d'Amnesty ?
Alors, ça dépend. Ça peut être assez long. Par contre, on a quand même une section de crise. Alors, pour ce qui est de la Syrie, je prends l'exemple de la Syrie. Là, c'est un cas de crise et donc ça va quand même assez vite. Et puis, il y a aussi tout un... Mais Il y a aussi tout un réseau qu'on appelle le réseau d'action urgente, où là, on nous demande, où là ça va très vite, parce qu'il faut agir dans l'urgence, parce que la vie des personnes est en jeu.
Vous avez un exemple pour les actions d'urgence ?
Action urgente, ben, j'ai écrit il n'y a pas longtemps pour deux personnes au Honduras qui étaient menacées de prison à vie ou de mort. Et donc là, il faut écrire. On a un temps, vraiment, on n'a pas plus d'un mois pour écrire et... pour ces personnes.
D'accord. Et du coup, par exemple, les 10 personnes dont la situation est mise en avant par l'opération 10 jours pour signer, ces 10 personnes-là ont été choisies en fonction des recoupements et des rapports d'Amnesty International.
Voilà, oui.
Ça n'a pas dû être facile d'en choisir que 10.
Non, je ne pense pas, non. Et puis, bon, oui, alors on essaie déjà, il faut qu'il y ait tous les continents qui soient représentés. Ça, c'est indispensable puisqu'on est une organisation internationale et qui se fonde sur la solidarité internationale. Et donc, on en prend à peu près 3 sur chaque continent. Et puis après, ben, il y a peut-être les cas les plus urgents et puis peut-être les cas qui sont peut-être un peu lourds parce que l'année dernière, pendant 2 ou 3 ans, on nous a demandé d'agir pour, par exemple, les 3 d'Angola. C'était 3 personnes qui étaient incarcérées à l'isolement aux États-Unis depuis 40 ans. Et oui, et donc il y en avait un d'ailleurs qui a été libéré, mais juste 3 jours avant de mourir, parce qu'il était atteint d'un cancer. Et le 3e a été libéré l'année dernière, Albert Woodfox. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a ce choix qui est fait quand même entre des cas d'urgence. Snowden, par exemple, bon, c'est déjà plusieurs années. Et puis, il y a urgence avant qu'Obama s'en aille, si on peut y arriver. Après, bon, les cas des gens. Alors, il y avait aussi une fois un prisonnier qui était à Guantanamo depuis 13 ans et qui avait vraiment de gros problèmes de santé et qui était libérable, mais que la Cour des États-Unis, qu'une des cours des États-Unis refusait de libérer. Donc là, la pression a été forte et il a été libéré. Donc je pense que dans tout ça, il y a des choix qui sont faits quand même. Oui, bien sûr, 10 personnes sur les milliers qui sont victimes.
Oui, mais tout de même, se dire que l'association Amnesty International est en mesure de faire une pression qui parfois aboutisse, c'est déjà quelque chose.
Et oui, c'est réconfortant et puis ça permet aussi de dire au public, ben si signer votre signature a du pouvoir, c'est ce qu'on dit souvent. Comme l'année dernière, ça fait 3 ans de suite que sur les 10 cas qui sont donc pour lesquels on appelle à signer, il y a au moins 4 libérations. Donc ça fait presque du 50%. C'est énorme, moi je trouve c'est énorme. Et sur l'ensemble de nos actions, c'est à peu près reconnu 40%.
Et du coup, ça doit être un peu lié d'une part aux agendas des gouvernements, d'autre part à la pression de la société civile. Il doit y avoir plusieurs facteurs qui entrent en jeu.
Alors par rapport à 10 jours pour signer, c'est sûr que là, sur 10 jours à peu près, il y a des millions. L'année dernière, il y a plus de 3 500 000 personnes qui ont écrit. Donc qu'un gouvernement reçoive 3 millions de lettres à propos de quelqu'un, ça doit quand même l'amener un peu à réfléchir peut-être et puis à se dire, bon, je vais lâcher du lest. Alors, je pense que ça c'est vraiment l'effet coup de poing. Par contre, dans notre combat quotidien, avec nos 3 lettres, par exemple, mensuelles, bon, c'est pas des millions, mais c'est des milliers. Et c'est quand même pointer du doigt, dire à un État, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il est torturé, on sait qu'il devrait pas être en prison. Donc, attention, quoi. Amnesty est là, éveille.
Et ces 3 lettres mensuelles, est-ce que c'est vous qui... Est-ce que chaque militant d'Amnesty rédige une lettre en propre sa lettre? Ou non, vous envoyez un courrier?
On a la chronique et notre mensuel. Et dans le mensuel, donc que tout militant reçoit, il y a les 3 modèles de lettres.
D'accord.
Voilà. Et donc on recopie, on peut l'arranger si on veut, hein, tout en restant en termes courtois. Et puis on l'envoie avec toujours le double à l'ambassade, pour pas qu'on puisse dire que c'est pas arrivé.
Voilà. Et du coup, c'est à chaque fois une lettre qui est rédigée en français quand on est français ou...
Oui.
D'accord.
Oui. Alors dans nos, enfin, alors après, donc il y a la recherche, mais après, bah, il faut bien sûr agir. Donc le propre du militant, c'est agir et aussi faire connaître. Voilà, Sakharov disait « Nommez-les, ceux que vous nommez seront sauvés ». Alors, c'est peut-être pas toujours vrai, mais je crois que c'est vrai, mettre en lumière, pointer du doigt les personnes qui sont emprisonnées, c'est peut-être éveiller un petit peu la conscience de certains étapes. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous engager aussi sur la question carcérale, mettons même en France ? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit ou...
Honnêtement, oui. J'aurais bien aimé, oui, aller donner des cours dans les prisons, mais bon, j'ai pas le temps. Je pense pas que... C'est vrai que les journées ont 24 heures. Mais je pense que c'est, oui, je pense qu'on doit pouvoir faire du bon du travail.
Et professionnellement, qu'est-ce que... sur ces 30 années de militante à Amnesty, quelle était votre profession ?
Mais j'étais enseignante en histoire, géographie, éducation civique.
D'accord. Est-ce que vous avez fait transparaître votre engagement auprès de vos élèves ou...
Oui, oui.
Et comment c'était reçu, ça ?
Et ben, jamais mal, au contraire. Bon, quand j'étais accro, par exemple, j'animais un club des droits de l'enfant et j'avais toujours des élèves qui étaient là, qui venaient le midi, on écrivait, on faisait des opérations contre le racisme, aux solidarités avec les enfants. Alors ça, c'était avec la solidarité laïque, notamment un cahier, un crayon. Donc tous les ans, on le faisait et les enfants écrivaient, même on fait des dessins pour les prisonniers. Enfin, ça a bien marché. Je peux même vous raconter une petite anecdote. Oui. C'est une fois, bon, je faisais cours. De toute façon, l'éducation aux droits humains est dans les programmes. Hein. Donc, on avait le choix entre plusieurs associations. Donc, bien sûr, j'avais parlé à Amnesty International. Je dictais le résumé. Et un élève me dit, comment ça s'écrit, madame ? Et un autre qui dit, ben, regarde, c'est écrit sur son t-shirt.
Vous ne vous cachiez pas vraiment.
Non.
C'est pas mal, l'antisèche sur le t-shirt de la prof. Pour en revenir aux 10 jours pour signer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qui sont les 10 personnes concernées cette année par l'appel ?
Oui, alors je n'ai pas encore tout bien étudié, mais enfin disons qu'il y a donc cette petite fille albinos, mais enfin il n'y a pas que elle, il y a tous les albinos qui au Malawi et dans d'autres pays donc risquent la mort même, puisqu'on veut, on veut voler leurs os, certains organes. Il y a même on déterre les morts pour récupérer les organes. Il y a Edward Snowden, le lanceur d'alerte, on voudrait absolument essayer d'obtenir sa grâce avant le départ de Obama, parce que après ce sera peut-être encore plus difficile. Tout le monde dit c'est bien, il faut lancer ce genre d'alerte, et puis il est la première victime pour l'avoir fait. Alors il y a aussi une femme péruvienne, Maxima Acuña, qui lutte depuis des années pour préserver sa terre qu'une entreprise minière veut lui voler pour pouvoir faire une extraction de minerais.
D'accord.
Et elle est victime de harcèlement, elle est victime de menaces. On lui a même détruit sa récolte 2 fois cette année, mais elle a décidé qu'elle tiendrait. Et donc Amnesty va essayer de la soutenir. Il y a aussi un peuple autochtone du Canada dont les terres sont menacées par la construction d'un énorme barrage hydraulique. Et donc là aussi, Amnesty va essayer de soutenir ce peuple pour qu'il puisse préserver sa terre, alors qu'il y a un accord qui a été signé par les arrière-arrière-grands-parents de cette communauté avec l'État du Canada pour préserver cette terre.
Ah oui. Donc il y a violation flagrante de...
D'un accord, d'un traité qui a été signé il y a une centaine d'années.
Ouais. Voilà.
Alors il y a aussi des jeunes gens qui, au Cameroun, qui aussi en Azerbaïdjan, simplement parce qu'ils ont tweeté une petite phrase anodine, parce qu'ils ont écrit quelque chose sur une statue, ont été arrêtés et sont passibles de plusieurs années de prison, 10, 20 ans de prison. Il y a aussi une jeune avocate iranienne qui est en prison et qui est harcelé, qui a eu déjà une centaine de procès, tous inéquitables, autant les uns autant que les autres, et parce qu'elle soutient les droits de l'homme et parce qu'elle soutient la minorité kurde. Et en plus, eh bien, la pauvre n'a pas droit aux soins médicaux auxquels elle devrait avoir droit, et elle risque de perdre la vue dans peu de temps si rien n'est fait pour elle.
D'accord.
Voilà. Il y a aussi une avocate turque. Bon, alors on sait ce qui se passe en Turquie. Alors elle, ben, c'est pareil, elle est emprisonnée pour avoir défendu les droits de l'homme. Et elle est condamnée à 10 ans de prison suite à des procès qui n'ont pas été conformes à l'équité. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai fait à peu près le tour. Il y a aussi un Indonésien, Johan Teterisa, qui a été condamné à 15 ans de prison pour avoir brandi un drapeau d'une communauté, et c'est interdit par le gouvernement de l'Indonésie.
D'accord.
Donc des cas, au fond, nous, ça nous surprend qu'on puisse avoir 15 ans de prison, qu'on puisse être torturé pour avoir simplement profité de notre liberté d'expression. Mais il faut savoir que dans beaucoup de pays, malheureusement, eh bien, c'est le sort qui est réservé aux gens.
Il y a des projections aussi qui sont prévues, non ?
Oui, alors la semaine va être assez forte. Il y a cette exposition que vraiment il faudrait aller voir, ne serait-ce que par rapport aux artistes qui ont fait des choses très très belles et très fortes. Pour la défense des droits des enfants. Il y a le dimanche soir, le Colbert nous a offert une soirée ciné-débat à partir du film Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur. C'est ce jeune Pakistanais qui avait été vendu par ses parents à l'âge de 4 ans, simplement pour rembourser des dettes, et qui a donc travaillé dans une briqueterie, puis dans un atelier de tisserand. Et puis qui s'est sauvé à l'âge de 9 ans et qui, pendant 4 ans, a fait connaître au monde entier cet esclavage des enfants au Pakistan et dans d'autres pays.
Et comment il a fait ?
Eh bien, il a réussi à entrer en contact avec un avocat qui militait déjà pour les droits de l'enfant. Et donc, ça l'a propulsé un petit peu. Et il allait dans le monde entier donner des conférences et raconter simplement sa vie d'esclave. Et il a été assassiné à 12 ans au Pakistan. Alors, on n'a jamais su trop par qui, mais bon, on peut se douter que certaines entreprises de tapisserie n'étaient pas très contentes de son témoignage. Et donc, il y a un petit film d'animation qui est sorti en 2015, et donc il sera projeté au Colbert à 17h45, et puis après, il y aura un petit débat sur le travail des enfants, justement. Voilà. Et donc après, c'est 10 jours pour signer, donc à la médiathèque. Et puis on laissera les pétitions aussi à l'exposition, comme ça les gens qui ne peuvent pas aller à la médiathèque mercredi pourront signer les pétitions pour 10 jours pour signer.
Est-ce qu'on peut aussi trouver cette pétition sur Internet peut-être ?
Ah oui, bien sûr, www.amnesty.fr.
Dominique, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Ben peut-être, oui, c'est qu'on n'est pas très nombreux au groupe Creuse. Donc si vraiment ça tente les gens de nous rejoindre pour une minute, pour un quart d'heure, pour une demi-heure, ou un petit coup de main de temps en temps, pas forcément en devenant membre d'Amnesty, mais en tant que sympathisant ou pour signer des pétitions, on serait vraiment très très preneurs. Et donc tous les renseignements, tous les contacts sont à amnesty.creuse@gmail.com.
Qu'est-ce que, mis à part les courriers, donc les 3 courriers mensuels que vous envoyez, comment s'anime le groupe Creuse ?
Alors, disons qu'on se réunit une fois tous les 3 mois à peu près, donc ce n'est pas insurmontable, le samedi matin à la maison des associations à Guéret. Et puis, on essaie d'organiser au moins 3 ou 4 événements dans l'année, ce qui peut encourager les gens à nous rejoindre. C'est il y a pas longtemps, j'étais dans un ciné-débat qui était organisé par Attac au Colbert, et il y avait un Burkinabé qui est intervenu, et à la fin, il est venu me voir, il m'a dit je vous remercie pour ce que vous faites, et il me dit vraiment continuez, parce que vous savez, quand Amnesty International est derrière un projet, quand il est derrière un mouvement, eh bien ça lui donne énormément de poids. Voilà.
Sur, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller signer les pétitions,
oui,
dans le cadre de 10 jours pour signer. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les lieux, les horaires auxquels on va pouvoir vous rencontrer,
oui,
les membres de Amnesty International Creuse?
Oui, alors on sera donc toute la semaine prochaine à Aubusson, à la Bourse du Travail, donc de 14h à 18h. En même temps, il y a l'exposition et les signatures. On sera à la, bibliothèque multimédia, ou non, à la médiathèque, hein, d'Aubusson, de 10h à 17h, mercredi 7. Hein. Alors, jeudi, au Fabuleux Destin. Et puis à Guéret, toute la semaine, il y a les pétitions et l'exposition dédicat, donc à l'espace Fayol, de vendredi au 12 décembre. Et on sera à la bibliothèque du Grand Guéret, donc samedi 10, de 14h à 18h.
Merci beaucoup.
Et bien, merci à vous.
Et à bientôt.
Oui, à bientôt.
Au revoir.